Pour l'instant, ça n'est qu'une image, cette lueur que vous allez voir apparaître dans le ciel noir de Crimée, la voilà, et qui semble confirmer les dires des autorités pro-russes. Elles affirment que la Crimée a donc été attaquée ce soir par plusieurs drones aériens. Au moins deux ont été abattus par la défense antiaérienne russe. Un appel au calme a même été lancé par le gouverneur de la région. Michel Olagaray, qu'est-ce qui se passe? C'est un message des Ukrainiens qui redisent aux Russes « On va venir, on arrive ?»
C'est faire peser sur les Russes et sur l'Ukraine une espèce de menace qui se concrétise par l'attaque à Sébastopol il y a quelque temps, par l'attaque du pont de Kerch, par cette attaque sur Novorossiysk qui est quand même très éloignée, donc on va se poser la question de quelle façon ce serait fait, et par une éventuelle attaque sur la route maritime, sur la route terrestre qui relie de Rostov par Mariupol, Mélitopol, etc. C'est-à-dire que là, toutes les trois possibilités de ravitaillement de la Crimée, Novorossiysk, c'est parce qu'il y a des bâtiments de débarquement amphibie qui sont chargés maintenant de suppléer les carences du pont de Kerch qui peuvent transporter. Donc les trois artères d'alimentation de l'Ukraine sont attaquées à moindre prix parce que quelques drones, on ne sait pas trop ce qui a pu se passer, mais c'est pas cher. Et ça fait peser une menace et ça concrétise d'une certaine façon la menace qui pèse sur la Crimée et ce que dit le ministre de la Défense ukrainien qui a dit « Nous serons avant Noël ». Alors ça, j'ai un peu de mal à le croire. Nous attaquerons, nous aurons les pieds en Crimée avant Noël. Mais d'une certaine façon, ça c'est du concret et à peu de frais.
On sait, Nicolas Tenzer, que Volodymyr Zelensky a la Crimée en ligne de mire. Mais ce soir, un peu plus, l'étau se resserre, le message se précise de la part de Zelensky et des Ukrainiens, même si, et on sera à Kiev dans une seconde, il n'y a pas de revendication.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, de toute manière, il y a un but parfaitement clair de la part de Zelensky, qu'on comprend et qui est totalement rationnel, c'est de faire voler complètement en éclats la prétendue ligne rouge sur la Crimée. Il ne peut pas y avoir de ligne rouge sur la Crimée. Ça, c'est une invention de M. Poutine, c'est une invention des propagandistes russes. La Crimée, c'est l'Ukraine, au même titre que le reste du territoire ukrainien occupé, le Donbass, la région de Zaporijja, la région de Kherson, etc. Et il ne doit pas y avoir de différence. Et il faut surtout aussi un message aux Occidentaux. C'est-à-dire un message aux Occidentaux, vous essayez de nous dire plus ou moins, il y a comme des bruits dans ce sens, mais finalement, peut-être que la Crimée, c'est un objet de négociation, il n'en est pas question, et je pense que là-dessus, il faut que le signal soit clair. Je répète, depuis 2 mois et demi, les Ukrainiens me disent quotidiennement... La Crimée est notre priorité et nous allons tout faire pour la récupérer, probablement même avant le Donbass. C'est ce message qui doit être passé.
Rim, je vous donne la parole dans une seconde, mais d'abord Kiev. Kiev en direct. Élise Philips, on vous retrouve envoyé spécial de BFM TV. Élise, je le disais, opération toujours pas revendiquée à l'heure où on parle, mais on pense évidemment à une attaque ukrainienne.
Oui, bien sûr, parce que depuis le début de la guerre, l'Ukraine ambitionne de récupérer la Crimée, cette péninsule qui a été annexée en 2014. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a rappelé à plusieurs reprises, pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs, lors d'une adresse au G20. Il a qualifié la Crimée de territoire occupé et a continué d'exiger que la Russie retire toutes ses troupes et formations armées du territoire ukrainien. Donc forcément, cette nouvelle attaque au drone en Crimée fait penser à une éventuelle charge de la part de l'Ukraine, surtout qu'il y avait déjà eu ce même type d'attaque au drone en octobre. Et puis, depuis plusieurs semaines, les Ukrainiens sont dans une dynamique de reconquête. Ils ont repris la ville de Kherson, une grande partie de la région de Kherson aussi. Ils repoussent sans cesse les forces russes dans le sud du pays. Donc, est-ce que le prochain objectif pourrait être la Crimée? C'est une possibilité, même si pour l'instant, un assaut est hypothétique parce qu'il y a plusieurs obstacles à franchir, notamment ce fleuve Dniepr qui sépare l'Ukraine, le reste de l'Ukraine de la Crimée. Donc, pour l'instant, c'est hypothétique, mais il n'empêche que ça met les forces russes en alerte. Et le gouverneur de la Crimée, la semaine dernière, a annoncé bien que des travaux de fortification allaient être menés dans la péninsule pour parer à toute nouvelle attaque.
Merci à vous, Élise Philips, en direct de Kiev avec nous ce soir. Rim, un tweet posté il y a 2 jours par le ministère de la Défense ukrainien. Regardez ce qu'il disait. Ceux qui parlent aujourd'hui d'une éventuelle pause des hostilités en raison des températures glaciales de l'hiver ne se sont probablement jamais fait bronzer en janvier sur la côte sud de la Crimée.
Le message est clair, comme disait Nicolas Tenzer, pour les Ukrainiens, c'est leur opportunité pour, une fois pour toutes, ne plus accepter l'annexion totalement illégale de la Crimée par la Russie. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose sur cette question de est-ce qu'il va y avoir une pause en hiver ou pas, bah, on oublie que la guerre a été lancée en février et quand il faisait très très froid. Donc, je ne suis pas trop sûre de comment ça va se développer dans les prochains mois. D'ailleurs, pronostiquer la guerre en Ukraine est devenu un peu un exercice futile parce qu'à chaque fois qu'on s'attend ou pas à un truc, exactement le contraire se passe. Après, sur les frappes ou bien l'attaque supposément des Ukrainiens en Crimée, moi je trouve intéressant que depuis que ces attaques en Crimée ont lieu, il n'y a pas de revendication officielle de la part des Ukrainiens.
Jamais. Le pont de Kerch, etc., jamais voilà. De revendication.
Ils jouent un peu le jeu des Russes qui est toujours, quand par exemple les Russes utilisent les milices Wagner, c'est pour pouvoir nier toute implication. Les Ukrainiens, j'ai l'impression, essayent de jouer la même approche et aussi peut-être que c'est ce que leurs partenaires occidentaux leur demandent aussi de faire. Et troisièmement, c'est très important de voir, jusqu'à maintenant, si c'est les Ukrainiens qui sont en train de lancer ces drones contre la Crimée, ils sont toujours contre des cibles militaires et non pas civiles, ce qui est contrairement à ce que fait la Russie dans l'Ukraine d'un côté. De l'autre, c'est important de savoir aussi que c'est clairement les dernières lignes de ravitaillement que les Russes ont d'une manière plus ou moins sécurisé, donc ça c'est important. Et j'avais vu que même des objets d'art qui avaient été pillés de Kherson s'étaient retrouvés en Crimée.
En Crimée, absolument.
Ce qu'il y a de saisissant aussi, c'est l'ingéniosité en fait de l'armée ukrainienne, parce que les Américains ont interdit aux Ukrainiens d'utiliser les armes fournies par les Américains pour taper en Russie, et notamment en Crimée, puisque la Russie considère que c'est son territoire, et donc ils utilisent des drones pour ne pas être mis en cause par les Américains, ce qui montre aussi une forme d'ingéniosité, d'audace finalement, et d'adaptabilité à ces contraintes de guerre qui sont assez stupéfiantes au moment où on s'attendait à ce que rien ne se passe. En réalité, ils rappellent quel est leur but ultime.
Drone aérien, comme semble-t-il ce soir, drone naval également, ça s'est vu quand la flotte de Sébastopol a été... Pourquoi vous faites la moue, Michel Lagarde ?
Parce que je doute un peu, si vous voulez, que des drones navals puissent atteindre ce port-là de Novorossiysk sans qu'il y ait un batouillement mer ou quelque chose comme ça. Parce que vous avez vu ce que c'est, on dirait des kayaks, ça ne fait pas...
Ça, ce sont des images d'archives de...
Oui, mais il y a à peu près 700 km entre Odessa, si vous voulez, et Novorossiysk. Donc, je doute un peu, je me pose des questions de savoir d'où viennent ces explosions, y compris les drones aériens d'ailleurs, parce que pour aller du territoire ukrainien vers ce qui est la Russie, et là ils ont frappé directement le territoire russe, eh bien il faut survoler quand même une partie de la Crimée, etc.
On va voir la carte justement.
Ça me paraît quand même assez douteux, mais après tout...
Là voilà la carte. On a plusieurs choses ce soir. On a les images que l'on voyait de nuit, c'était... semble-t-il, du côté de Sébastopol, en tout cas du côté de la Crimée. Et l'autre attaque qui a eu lieu, d'après les renseignements britanniques, c'était donc Novorossiysk, attaque contre, à nouveau...
Un terminal pétrolier.
Absolument, contre un terminal pétrolier, mais dans une région, dans un port qui abrite aussi une partie de la flotte russe, qui est venue se réfugier après avoir été attaquée à Sébastopol. On va essayer, dans une seconde, d'être en direct de Crimée avec un professeur de français francophone, un russe francophone. On verra ce qu'il nous dit dans un instant. Mais Ulysse Gosset, juste une chose. C'est une chose d'attaquer la Crimée à coups de drone, c'en est une autre de reprendre la Crimée.
Bien sûr, mais le fait d'attaquer la Crimée, c'est un symbole déjà très fort, parce que Sébastopol, c'est le siège de l'amirauté, donc le chef de la marine russe en mer Noire est là-bas, et c'est lui qui commande toutes les opérations. Alors, c'est des opérations très importantes, parce que faut savoir qu'il y a des tirs de missiles qui viennent de la flotte russe contre les villes ukrainiennes, depuis déjà maintenant près de 3 semaines. Et puis aussi, c'est la flotte russe qui, finalement, contrôle la région et qui surveille le transfert des céréales, vous savez, qui passent avec les cargos. Qu'a fait Poutine la dernière fois qu'il y a eu des attaques contre la Crimée ? Il faut le rappeler, il a suspendu l'accord sur la fin du blocus. Et ça a duré pendant près de 15 jours. Sur l'exportation des céréales. Il l'a rétabli depuis, mais donc ça veut dire simplement qu'il faut s'attendre peut-être à de nouvelles représailles de la part de Poutine, mais s'attaquer donc à ce port de Sébastopol et à l'amirauté, c'est pas la première fois d'ailleurs, c'est important. N'oublions pas que l'un des premiers actes de guerre des Ukrainiens, ça a été de couler le fameux bâtiment Moskva, qui était le fleuron de la marine russe. Depuis, ils se sont attaqués à d'autres bateaux, bien pour montrer aux Russes que selon eux, la Crimée ne leur appartient pas. Et surtout, les gêner dans le contrôle de la, de la péninsule dont ils voudraient faire une forteresse assiégée. Et il faut rappeler enfin que les Russes prennent les menaces au sérieux puisqu'ils ont renforcé la protection de la Crimée avec des fortifications.
Absolument.
Parce qu'ils se demandent si un jour les Ukrainiens auront l'audace, j'ai bien l'audace, d'essayer de conquérir toute la Crimée, comme il l'a annoncé d'ici fin décembre.
Vous parliez des précédentes attaques, on a évidemment tous en tête les images du pont de Kerch au mois d'octobre qui avait été attaqué avec cette explosion qu'on a tous vu évidemment. La voici, on revoit ces images, Pauline Simonet. Ça veut dire que ce soir, avec ces drones, c'est une humiliation de plus pour les Russes ?
Certainement une humiliation de plus pour Vladimir Poutine, mais aussi, je rejoins ce que disait Nicolas Tenzer sur ce message aux Occidentaux, hein, puisqu'il y a quand même quelques jours, le chef d'état-major américain Mike Milley expliquait que les Ukrainiens ne reprendraient très certainement pas l'entièreté du territoire, et on avait compris ce qu'il voulait dire. La Crimée, ils la reprendront jamais. Donc le fait que ça intervienne maintenant, c'est intéressant, même si on ne sait pas quel jeu jouent les Américains. Ça, c'était le propos du chef d'état-major, Mark Milley, mais on ne sait pas exactement quel jouent les Américains. Et puis, je voulais ajouter aussi, on voyait sur la carte qu'il y a des combats qui sont en cours sur la péninsule de Kinborn, qui est au sud de Kherson, et on avait pronostiqué qu'une fois qu'ils auraient repris cette péninsule, eh bien, il y aurait des tirs possibles, alors peut-être pas jusqu'en Crimée, mais en tous les cas, du côté de Kherson. Donc, il y a une offensive qui se poursuit alors qu'on pensait que ce serait la stabilisation pendant l'hiver.
La Crimée.
Ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre suédois qui était en France aujourd'hui, lui, a une divergence avec les Américains sur la Crimée. Et c'est intéressant de lire ces mots à l'aune de ce que vous dites sur les Américains qui sont beaucoup plus prudents. Le Suédois, qui va prendre la présidence de l'Union européenne, dit lui, la Crimée, jusqu'à la Crimée, il n'y aura pas de négociation de paix. C'est intéressant de voir qu'il y a une divergence entre les alliés occidentaux et sans doute que les Ukrainiens ont ça aussi en tête.
Je vous promets que je vous donne la parole, Nicolas Tenzer. On nous attend en Crimée. Bonsoir, Kaïl.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes blogueur, professeur de français russe, mais francophone. Vous êtes installé depuis 10 ans en Crimée. Vous parlez parfaitement français, on va l'entendre. Simplement, sur ces attaques ce soir, attaques de drones, c'est ce que disent ce soir les autorités pro-russes en Crimée. Est-ce que vous avez vu ou entendu des choses ce soir ?
J'ai entendu des explosions. Franchement dit, j'habite pas vraiment à Sébastopol, la ville ciblée par ces drones. Mais j'habite un peu au nord, 40 km au nord de Sébastopol. Si vous avez montré la carte, vous pouvez voir, c'est entre Sébastopol et Patoria. Donc, on a entendu des explosions. C'était pas trop fort parce que quand même, 40 km, voilà, c'est beaucoup. Mais je n'ai rien vu et je n'en ai pas été vraiment témoin.
Les autorités disaient tout à l'heure qu'elles lançaient un appel au calme auprès de la population. Est-ce que vous sentez de la tension montée en Crimée au fur et à mesure que les attaques se multiplient. Les drones ce soir, on a effectivement parlé du pont de Kerch, notamment d'autres attaques contre Sébastopol. Est-ce que vous sentez une tension montée en Crimée ?
Tout d'abord, je ne peux pas dire qu'il y a une certaine multiplication de ces attaques dont vous parlez. Moi, personnellement, je ne ressens aucun panique, aucun tension par rapport à ça. Il y avait une petite disons panique le lendemain de l'attaque du pont de Crimée, du pont de Kerch, qui s'est calmé le jour même et ça devient déjà, vous voyez, la vie normale de la péninsule.
Kaïl, les Ukrainiens, les Occidentaux ici et ici en plateau, on parle d'annexion de la Crimée comme d'un territoire annexé. Comment est-ce que vous décrivez la situation ?
Je ne suis pas d'accord avec cette définition. L'annexion, je dirais plutôt, c'est la réunification avec la Russie.
Pourquoi réunification ?
Parce que quand même, j'ai vécu ici, j'étais ici en 2014, et j'ai vu tout ce qui se passait, tout comment cette histoire se déroulait, et je voyais vraiment l'envie des peuples de rejoindre la Russie, de se réunir avec la Russie et d'être avec ce pays ensemble. Voilà.
Une chose, les Ukrainiens, on l'a dit, Volodymyr Zelensky veut récupérer la Crimée. Il y a eu ce référendum en 2014 qui est contesté par les Ukrainiens et par les Occidentaux aussi, les conditions de ce référendum. Vous dites non, tout ça c'est fait dans les règles de l'art.
Je ne peux pas dire que c'était fait selon les règles, le règle de l'art, le règle d'Ukraine, le règle de Crimée, mais c'était vraiment la vie et l'opinion de ceux qui vivaient à l'époque en Crimée.
Et est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont changé aujourd'hui ?
les choses ont changé par rapport à l'époque ukrainienne?
Oui.
Bah, bien sûr que beaucoup de choses ont changé. Oui, ça c'est vrai et ça se voit.
Donc, mais comme quoi?
Il y a des centrales électriques construites, il y a des routes, il y a ce pont, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Voilà ce que fait la Russie ici en Crimée.
Une question encore, Kaïl. Oui. La Crimée, c'est l'objectif des Ukrainiens. Est-ce que vous craignez, dans les semaines qui viennent, que la Crimée soit reprise militairement, qu'il y ait une opération militaire terrestre, notamment de la part des Ukrainiens?
Bien sûr que cette peur existe, cette crainte existe. Et je ne peux pas dire que j'en ai vraiment peur. J'espère pour le bien, bien sûr. Si c'était possible, donc c'est pas dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Je pense que c'est plutôt en vrai long terme.
Kyle, encore une question. Cette fois, promis, c'est la dernière. Mais question posée par Ulysse Gosset.
Oui. Est-ce que il est exact qu'il y a eu beaucoup d'arrestations chez les Tatars de Crimée, dont c'est la terre originale finalement? Certes, la Crimée a été conquise par l'impératrice Catherine II. Et elle est devenue russe, mais les Tatars de Crimée, encore aujourd'hui, sont persécutés. Est-ce que cela ne jette pas une ombre quand même sur cette présence russe que vous défendez en réalité?
Ça dépend de je ne sais pas comment répondre à vos questions parce que je suis que prof de français, hein, donc je ne travaille pas pour la police, etc. Mais bien sûr que j'en ai lu sur les réseaux sociaux, sur les médias, sur ces arrestations. Mais selon moi, il s'agit plutôt des adeptes des organisations interdites par la Russie, comme Hizb ut-Tahrir, qui est aussi interdit en Allemagne, par exemple.
Bon, merci Kaïl. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir sur BFM TV. Nicolas Tenzer, c'est un témoignage en direct de Crimée qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant, un discours qu'on n'entend pas forcément beaucoup en France, qui existe, évidemment. Alors.
Il y a deux choses. D'abord, effectivement, parce que j'allais y venir, hein, sur les Tatars de Crimée, il faut comme jamais oublier, effectivement, les exécutions forcées, les déportations, la destruction du patrimoine culturel tatar, que ce soit des mosquées, que ce soit des livres, que ce soit des éléments de leur patrimoine. Ça, il faut pas l'oublier, c'est un crime de génocide, hein, parce qu'il y a une intention génocidaire. Ça, il faut toujours le rappeler, et ça, cela est totalement documenté. Que deuxièmement, l'intervenant en question, je ne sais pas s'il était sincère ou pas sincère, ce n'est pas à moi d'en juger, mais de toute manière, qu'il le soit ou non, il ne pouvait pas dire autre chose. Il faut savoir qu'évidemment, la Crimée annexée, comme l'ensemble de la Russie ou les territoires ukrainiens autres annexés, sont soumis à une surveillance policière qui fait que de toute manière, s'ils parlent à une télévision étrangère et disent des choses qui vont à l'encontre de ce que veut le régime, de toute manière, je donne pas lourd de leur liberté, voire un peu plus, dans les jours qui suivent. Donc, de toute manière, ils ne pouvaient rien dire de plus. Troisièmement, je reviens une seconde sur le message des Ukrainiens. Ligne rouge. Bien sûr, sur la Crimée, il n'y a pas de ligne rouge, il faut les faire voler en éclats, mais aussi ligne rouge, on l'a vu avec l'attaque sur Novorossiysk, c'est aussi l'idée que l'Ukraine ne puisse pas riposter et frapper le territoire russe, c'est aussi une idée que les Ukrainiens, à raison me semble-t-il, veulent faire complètement voler. Il n'y a pas de raison que d'un côté les Russes attaquent l'Ukraine et que les Russes et que les Ukrainiens d'un autre côté ne puissent pas riposter. Je trouve que là-dessus, sur cette, encore une fois, il y a une ambiguïté de la part des Occidentaux, d'une partie en tout cas des Occidentaux, y compris américains, mais aussi en partie européens, qui consiste à être toujours dans une sorte de milieu. Je veux dire, on est au milieu dans le soutien de l'Ukraine.
D'où la question qui vient, Nicolas Tenzer, Michel Lagarde, je vous la pose, Rime aussi. Est-ce que Zelensky est sûr que les Occidentaux suivront? Que les Occidentaux diront « Ok, on peut y aller en Crimée, ok, on vous suit ».
Il les pousse au maximum, il essaie de les entraîner, il essaie de les mouiller au maximum. Ça, sa tactique est quand même assez évidente, c'est un jusqu'au-boutiste, parce que s'il manifestait la moindre hésitation, je crois que certains Américains ne se priveraient pas de lui tordre le bras pour l'amener à la table des négociations. Ce qui est absolument impossible, parce qu'il faut être deux pour négocier. Tout le monde a dit « Nous négocierons si les Ukrainiens veulent bien ». Poutine n'est absolument pas en état de négocier, puisqu'il il recule, si vous voulez, en défaite. Lui, c'est sa survie politique et peut-être sa survie personnelle qui est en jeu. Bon, je pense que très fortement que d'ici le printemps et l'été prochain, sa survie personnelle devra être examinée de très près. Mais Zelensky, pour l'instant, n'a aucun intérêt à négocier. Donc il pousse. À la limite, nous allons regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention tout ce qui va se passer, les nouvelles stratégies, les nouvelles attaques, parce que effectivement, Zaloudji, qui est un chef d'état-major assez remarquable, hein, ukrainien, qui est assez fantastique, n'a commis aucune faute pour l'instant, aucune faute de quart. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller, parce qu'il va entraîner tout. S'il gagne, personne ne pourra lâcher Zelensky, personne ne pourra lâcher les Ukrainiens.
Juste sur la Crimée, un mot très court sur le témoignage qu'on vient d'entendre. Il faut quand même dire qu'il est représentatif. Alors, on ne sait pas de combien, parce qu'évidemment, les sondages ne sont pas vérifiables. Le référendum, effectivement, n'était pas valable. Si sur le terme du droit international, Vladimir Zelensky a tout à fait le droit de vouloir récupérer la Crimée, mais c'est vrai que ce sera plus compliqué. Il ne faut pas s'attendre à un accueil de toute la population à bras ouverts. Il représente, celui qu'on vient d'entendre, un certain nombre de Russes ou Ukrainiens de Crimée.
Un petit point rapide quand même, juste une seconde. Il faut voir aussi qu'il y a eu un remplacement de population.
Bien sûr.
C'est-à-dire que derrière, il y a des Russes...
Par cent dizaines de milliers, les Russes sont arrivés...
Et qui ont, soyons clairs, ils ont aussi... accaparer, dépouiller les Ukrainiens qui étaient là de leurs habitations.
Oui, bien sûr.
Mais même au moment de l'indépendance de l'Ukraine, de nouveau, est-ce que les chiffres étaient plus serrés en Crimée que dans le reste du pays ?
Il faut qu'on avance.
En Crimée, il y a une population un peu plus pro-russe. Maintenant, est-ce que ce n'est pas la majorité de la population ce qu'il représente ?
Qui peut se retourner, comme on l'a vu dans le reste du Donbass, qui était parfois pro-russe avant et qui, après le 24 février, est devenue pro-ukrainienne.
Et on voit la répartition de la population aujourd'hui en Crimée.